Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h03, vous êtes sur RMC, RMC Story, dans Estelle Midi, avec aujourd'hui autour de la table Rémi Barré, l'économiste Pierre Rondeau, la militante écologiste Anne-Sophie Saint-Père et le journaliste et écrivain Fred Hermel. Dans un instant, on va s'intéresser à la petite phrase du PDG de Michelin. Le SMIC n'est pas un salaire décent. D'accord, pas d'accord? Dites-nous ce que vous en pensez au 3216 et sur l'appli RMC. Il y aura bien sûr le zapping, le meilleur du jour sur RMC. À 13h30, on parlera de ce défilé de dromadaires qui a été supprimé à Paris, et puis on se demandera si c'est ringard de porter un pull sur les épaules. C'est un très gros sujet. À 14h, les discussions qui continuent sur l'utilisation des tickets resto au supermarché. Faut-il prolonger ce dispositif ou le réserver aux restaurateurs? On parlera de chips dans RMC Conso à 14h30. Est-ce qu'il existe des chips bonnes pour la santé? Vous savez, il y a plein de petites chips de légumes, des chips de carottes, tout ça. Est-ce que c'est mieux que des chips traditionnelles? Écoutez, on vous donnera la réponse avec Charlotte Mériton. Ce sera à 14h30.
RMC Estelle Midi.
13h04 sur RMC, on va s'intéresser tout de suite à la petite phrase du jour, et c'est celle du PDG de Michelin, Florent Ménégaud. Pour lui, le SMIC n'est pas un salaire décent. Conséquence, tous les employés de son entreprise sont payés au-dessus du salaire minimum. On rappelle quand même que le SMIC est à 1398 € net par mois. Mais quels sont les arguments du PDG de Michelin pour dire ça, Rémi?
D'abord, il faut savoir que le salaire minimum concerne de plus en plus de Français. Pour cause, le SMIC a augmenté ces trois dernières années. Il est passé en trois ans donc de 1230 € net par mois, je viens de le dire, à 1398. Mais si les prix à la consommation explosent, les salaires stagnent. Conséquence, de plus en plus de salariés sont au SMIC aujourd'hui. Près d'une personne sur cinq dans le privé, 17%, c'était 12% début 2021. Or, d'après l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion, un SMIC ne suffit plus aujourd'hui pour vivre. L'organisme estime que 34 à 35% des ménages n'avaient pas les ressources suffisantes fin 2022 pour subvenir à leurs besoins essentiels. Ce qu'on entend comme étant des besoins essentiels, l'organisme, c'est se nourrir, se loger, se soigner, assurer les études des enfants, mais aussi épargner et même envisager des vacances et des loisirs. Et il estime que pour vivre décemment, une personne seule avait besoin de 300 € de plus par mois que le SMIC.
Alors, le SMIC n'est pas un salaire décent. D'accord, pas d'accord, Pierre Rondeau?
D'accord, malheureusement d'accord. Et attristé qu'effectivement, après différentes mesures qui, à l'époque, je parle des réformes Fillon, donc on est sur, lors du quinquennat de Nicolas Sarkozy, François Fillon est alors Premier ministre, on avait décidé, pour lutter contre le chômage de masse, de soutenir et d'inciter à l'embauche via la progressivité des cotisations patronales et salariales. Donc en mettant des cotisations sociales faibles pour les payés au SMIC et aux petits salaires, et progressivement, au fur et à mesure que le salaire augmentait, on augmentait les cotisations. Ce qui a eu un effet à court terme positif puisque le chômage a baissé, mais aujourd'hui ce qui se passe, c'est qu'on a une smicardisation de la France.
Et un tassement des salaires.
Parce qu'on a... On a une préférence du côté des patrons à embaucher au SMIC plutôt que d'embaucher avec un salaire de 1,4 ou 1,8 fois le SMIC. Donc il y a le premier élément sur cette incitation malheureuse à l'embauche au SMIC qui provoque une réduction du pouvoir d'achat et par effet de conséquence, le SMIC n'est pas assez valorisé, le SMIC ne vous permet pas de vivre décemment et donc il y a une diminution, ce qui provoque un effet domino. Il y a une diminution du pouvoir d'achat, il y a une diminution de la consommation, il y a une diminution de la demande, donc il y a une diminution de l'incitation à la production, donc de la croissance économique, donc de l'activité économique, donc de la reprise, la reprise de l'emploi. Donc il y a plein d'effets pervers qui se propagent à cause d'une politique qui à long terme est malheureuse.
Moi je serais après partisan. tu vis pas le SMIC de la même manière si tu habites au Creusot et si tu habites à Paris.
C'est pour ça qu'il y a un deuxième élément dans le débat, c'est qu'il y a un SMIC qui ne vous permet pas de vivre décemment et qui a une incitation à ce que vous soyez rémunéré et embauché au SMIC qui est gravissime. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a un SMIC national dans une distinction de pouvoir d'achat différenciée, que l'on soit à Paris ou dans la Creuse ou ailleurs. Effectivement, à Paris, au SMIC, bon courage. Bon courage.
C'est impossible.
Un SMIC, inversement, dans différents départements, loyer 3, 6 fois plus cher moins cher qu'à Paris. Donc là, c'est plus facile. Mais vous avez raison. SMIC nationalisé ne vous permet pas localement de vivre de la même manière qu'on soit à Paris ou ailleurs.
Est-ce qu'on peut s'en sortir aujourd'hui avec un SMIC, Fred Hermel?
Alors, oui, parce que nous sommes en France.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'en France, le SMIC, c'est-à-dire le salaire le plus bas légal,
1398 euros net,
est accompagné d'aide sociale. C'est-à-dire que aujourd'hui, la différence de salaire en France entre, en gros, les bas salaires, les hauts salaires, en gros, la moyenne, c'est fois 13. Mais le correcteur des aides sociales fait que cette différence passe à, de 1 à 8. Et avec les, comment dire, les services publics, c'est même 1 à 3. Donc voilà, c'est, il y a des correcteurs sociaux de
travail devrait rémunérer.
Oui, non mais j'explique truc, c'est-à-dire que
en fait,
oui,
quand t'es payé au SMIC, t'as beaucoup d'aides qui font qu'en fait voilà, tu touches pas 1398 euros par mois en fait.
C'est-à-dire
c'est
que
plutôt SMIC, à 1500.
Laisse-moi, s'il te plaît, je te laisse parler. C'est-à-dire que le SMIC en France, le salaire minimum, n'est pas le même que le salaire minimum en Espagne où il n'y a pas ce genre d'aide. Il n'y a pas d'appel en Espagne, c'est quasiment pas. En France, quand t'as un SMIC, t'as un SMIC pour une famille de papa, maman, ou deux enfants, ça ne suffit pas pour vivre, mais tu as des APL, tu as des aides sociales, tu as les allocations familiales, tu as les
allocations de rentrée,
tu as une crèche, la crèche moins chère, tu as le ticket de cantine moins cher, etc. Donc, il faut replacer ça dans le contexte français. Donc, j'arriverai à dire que oui, je suis d'accord avec le patron de Michelin. Une petite parenthèse.
Ce qu'il fait est génial, hein, franchement.
Mais Michelin, je vais dire quelque chose. Michelin, c'est dans la tradition de cette entreprise qui est une immense entreprise française, une fierté de notre industrie et de notre pays, et qui a toujours eu un rôle social très important, que ce soit avec l'actuel président ou avec l'ancien président, grand homme Jean-Dominique Sénard, qui est aujourd'hui le patron de Renault. C'est lui qu'on a appelé, que le président a appelé après le scandale Carlos Ghosn pour prendre Renault. Ben, il y a cette conscientisation sociale. Donc, il a raison, le président du PG de Michelin, en disant que ce n'est pas un salaire décent, mais il permet de vivre parce qu'il y a un accompagnement d'aide sociale. Je veux dire multisectoriel, c'est-à-dire que toute ta vie est accompagnée. Par exemple, le SMIC aux États-Unis, à partir du moment où tu n'as pas de sécurité, mais je veux dire un salaire minimum aux États-Unis, tu veux dire syndical, un salaire bas, il ne sert à rien. Enfin, c'est terrible parce que t'as pas la sécu là-bas.
Exactement.
Nous, on a la sécu. Voilà, donc toutes ces aides corrigent l'affaire, le côté indécent et trop bas du salaire minimum.
Est-ce qu'il faudra arrêter avec le SMIC, tout simplement, Anne-Sophie Saint-Père? C'est-à-dire qu'en fait, on met le SMIC à toutes les sauces, et en fait, effectivement, on voit que à chaque fois, tout le monde se compare au SMIC, et etc. Mais il y a presque plus de différence entre les salaires. Alors, avoir un salaire minimum, c'est bien, mais j'ai arrêté avec toutes ces aides pour le SMIC, etc. Et remettre un peu les choses à plat, afin qu'il continue à y avoir des différences de salaire, parce que c'est pas tout à fait normal qu'il y ait un ouvrier pas du tout qualifié au SMIC aujourd'hui, il gagne quasiment la même chose qu'une infirmière. Donc ça, il y a aussi un petit souci, quoi.
Alors non, il faut surtout pas arrêter le SMIC. C'est absolument essentiel d'avoir un minimum garanti. Par contre, effectivement, faut
il empêche les autres salaires d'augmenter.
Voilà, mais il faut augmenter les autres salaires. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, hein, ce que dit le patron Michelin, c'est que c'est possible de mieux payer les gens. Du coup, de les faire sortir du SMIC plus les aides primes à l'emploi, qui permettent pas de bien vivre non plus. Enfin, ça va dépendre effectivement des endroits, mais c'est quand même compliqué. Et donc, ça montre que quand des grandes entreprises veulent faire un effort sur les salaires, c'est possible. Et c'est quelque chose dont on a souvent parlé, la question des aides aux très grandes entreprises. Je parle pas des PME, des petites entreprises, mais on pourrait conditionner ces aides aux efforts qui sont faits sur les salaires pour que ces salaires passent cette barre où il y a besoin d'accompagnement avec les aides sociales. Et ça, ce serait hyper intéressant de le faire. Je pense que effectivement la question du salaire minimum, elle doit être prise en compte en fonction du coût de la vie. Voilà, moi j'ai quand même un point où il va falloir être très vigilant sur Michelin, c'est que effectivement là c'est très bien ce qu'il dit de parler du salaire minimum. Il faut conserver ce salaire minimum. Ensuite, Michelin, c'est une entreprise internationale et donc c'est quelque chose qu'ils vont appliquer mondialement. Il faut que les sites en France soient pérennes pour que ça s'applique aussi en France.
Oui, ça je suis entièrement d'accord. Après, ce que dit aussi le PDG de Michelin, c'est que et ça, je pense que tous les Français qui travaillent l'ont constaté, c'est que la différence entre le net et le brut aujourd'hui, elle est trop énorme. C'est-à-dire que vous avez
permet de financer les
permet de financer la permet de financer la retraite. C'est du salaire aussi, tout ce qu'on n'a pas directement. C'est du salaire reporté.
Ce que veulent les gens,
ce que veulent les gens, c'est être plus payé et effectivement ne pas être payé au SMIC. C'est pour ça quand je disais, est-ce qu'il faut arrêter avec le SMIC? C'est juste que à un moment, tout le monde va finir par être au SMIC parce que il y a plein d'aides quand t'es au SMIC, etc. Donc il faut arrêter avec toutes ces aides.
Mais c'est pas du tout le moment.
Et laisser les patrons faire ce qu'ils veulent.
Du tout le moment, parce que si on laisse les patrons faire ce qu'ils veulent, on n'est pas dans une situation où les salariés sont dans une bonne posture pour négocier avec les patrons.
Ah bah je crois que si, en ce moment, il y a des pénuries partout. Donc
d'autant plus quand on est en train de réformer les règles du chômage et que ça devient donc hyper compliqué d'être au chômage. Donc en fait, on est prêt à prendre n'importe quel emploi. Donc on affaiblit le pouvoir de négociation des salariés. Donc là, laisser libre cours au patronat. Alors évidemment, on peut imaginer qu'il y a un patron très sympa qui va bien payer ses salariés, mais il y en a aussi toute une partie dont les profits sont indexés aux résultats des entreprises et donc aux bénéfices. Stellantis qui ont intérêt à faire baisser la masse salariale. Hein. Tavares, il a quand même licencié. Enfin, il y a ses 26 000 postes en moins depuis qu'il gère Stellantis, et donc ils vont pas du tout avoir envie de mieux payer les gens. Non, mais... Donc on peut pas se permettre d'enlever une sécurité sur les négociations pour les salariés. Maintenant, c'est pas le moment.
Sauf que quand par exemple tu prends quelqu'un au SMIC et que tu sais que ça va te coûter zéro, voire même ça va te rapporter de l'argent parce que tu vas avoir une prime, etc. Et alors que si tu sais que le SMIC, le SMIC c'est 1400 à la limite. Et si tu payes quelqu'un 1400, tu as des aides, etc. Et tu payes, toi, t'es patron et tu verses pas de cotises. Si tu payes quelqu'un 1007, et ben là, alors tu vas payer des cotisations, des machins et tout. Donc en fait, ça ne t'incite pas à payer 1007.
Bah oui, mais donc c'est un problème. Il faut revenir sur les allègements de cotisations patronales pour les bas salaires.
Oui. Ben exactement, faut arrêter cet allègement, mais voilà. Et évidemment, on est avec Emmanuel. Emmanuel, il est patron d'un salon de coiffure au Mans. Bonjour Emmanuel.
Bonjour Estelle.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Vos coiffeurs, Emmanuel, vous les payez au SMIC ou plus?
Alors les premiers, je les paye 1400 euros net mensuel.
Donc c'est le SMIC.
Le SMIC. Il y en a qui touchent un petit peu plus. On a une partie variable également, mais moi je voulais. Surtout revenir, c'est que 1400 euros net mensuel, moi je le redonne, mon coût global pour le salarié, il est 2200 euros.
Ah oui, quand même.
Et donc, à aujourd'hui, moi je suis d'accord avec le patron de Michelin, moi je suis prêt à payer mes collaborateurs beaucoup plus cher, j'ai pas de souci avec ça. Sauf que si je paye mes collaborateurs beaucoup plus cher, eh ben, mes prix, il va falloir que je les augmente de 20 à 30%. Et après, bah, ça va être compliqué pour que les clients puissent venir chez moi. Donc c'est là que j'ai du mal à comprendre en fait.
Oui, mais si vous aviez, si par exemple, vous étiez plus exonéré de charges, si vous augmentiez les salaires, voilà, vous le feriez. Voilà. En fait, votre problème, c'est ce que vous dites. Quand vous payez quelqu'un 1004, eh ben, ça vous coûte 2002. Ouais. C'est là qu'il y a un problème. Si par exemple, si vous payez quelqu'un 1007 et que vous aviez toujours 2002, bah, vous le paieriez 1007. Enfin, j'imagine.
Bah, bien sûr.
Bah, voilà. Ah, donc, c'est ce que dit le patron de Michelin, c'est qu'il y a trop de cotisations. Voilà. En fait, c'est bien le souci. Et que c'est pour ça que vous embauchez au SMIC, parce que c'est là où on vous prend le moins d'argent, j'imagine.
Eh ben, tout à fait. Après, le souci, c'est qu'en fait, aujourd'hui, entre celui qui a juste le SMIC et celui qui a eu son BP, voire son brevet de maîtrice, en fait, il n'y a pas assez de différence entre
Exactement.
Et c'est ça qui est dommage.
Et je vais même vous dire, moi je pense qu'aujourd'hui, il vaut mieux gagner le SMIC que 200 euros au-dessus du SMIC, parce que je pense que c'est quasiment kiff-kiff, parce que vous payez des impôts sur le revenu. Si vous êtes à 1007, vous payez des impôts sur le revenu, vous avez beaucoup moins d'aides, etc. Et je pense qu'effectivement, si on lisse à la fin de l'année, je suis pas sûr qu'on s'en sorte plus mal avec un SMIC qu'avec 1700 euros par mois. Et c'est vrai que c'est pour ça que quand on parle du SMIC, en fait, on n'est pas très honnête. Il faudrait vraiment, ce que disait Fred, rajouter à chaque fois tout ce qu'il y a autour et faire le global à la fin de l'année pour avoir en fait un salaire moyen. Alors je sais pas s'il y a des études qui font ça et qui lissent avec les aides.
À mon avis, 300 euros au-dessus du SMIC, c'est moins d'argent que le SMIC.
Le seul élément que je peux vous donner, mais ça serait beaucoup plus intéressant, et je vous rejoins, si on le séquençait sur la rémunération, la hauteur de la rémunération.
Exactement.
Parce que moi, la seule donnée que j'ai, c'est en moyenne, et tout ce que nous rapporte l'État en termes de services publics, de redistribution, d'écoles gratuites, de routes, de santé et autres, au total, en moyenne, c'est 5000 euros par an de gains. 5000 euros par an. École gratuite, santé publique. Bah,
le transport, par exemple.
Bah oui, ça fait 450 moyenne, euros par mois, donc c'est pas mal.
Le ticket de métro, le ticket de bus, le train régional, etc., il est ultra subventionné.
Ouais.
Oui. On ne paye pas le prix réel. Donc là aussi, ça entre là-dedans. Donc ça permet de corriger cet aspect très. Même pauvre du SMIC.
Même s'il y a des messages qui te reprennent, Fred, en ce qui concerne le SMIC et les aides qui corrigeraient, il y a beaucoup d'entre nous, enfin d'entre ceux qui nous écrivent, qui sont au SMIC et qui sont célibataires. Mais c'est pour ça que je te dis, je n'ai le droit à rien. Ouais.
C'est la raison pour laquelle, tu t'en souviendras, j'ai parlé de 4 personnes.
Il y a pas une famille
de 400 personnes. Je te dis, avec les enfants, la cantine et tout ça.
Je suis célibataire.
Je sais que quand c'est pas
rien. Il parlait d'une famille de 4.
Une famille de 4. Donc, automatiquement, parce que la cantine, la crèche et tout ça. Donc,
en tout cas, ça fait réagir. Donc, faut faire très attention à ce qu'on dit. Je parle pas de ce que tu viens de dire.
Non.
Parce que même lorsqu'on dit que, voilà, qu'il y a des aides, etc.
Non, ça reste difficile de vivre.
Bien sûr, évidemment, on est tous d'accord.
Tu as raison sur ce que tu dis pour les billets TER, etc. Un passager de TER ne paie en moyenne, on dit que 25% du prix réel, mais c'est difficilement entendable pour un certain nombre de ceux qui nous écoutent et qui nous regardent parce que chaque mois.
Bien entendu, sauf que c'est la réalité de la France.
Ah oui.
C'est-à-dire que, voilà, en France, le salaire minimum est plus élevé à cause de ce qu'il y a autour que ce qu'il est en Espagne, par exemple.
Peut-être que si les salaires étaient plus élevés et qu'il y avait moins d'aide, eh ben, on s'en rendrait davantage compte que.
Et je vais te dire que les gens qui sont au SMIC, ils préféreraient 1000 fois, je veux dire, ne pas avoir d'aide et être payés décemment et pouvoir vivre décemment de leur travail et que d'avoir des aides. À chaque fois qu'on fait les sujets sur les chèques énergie, etc., donc qui profitent effectivement aux gens qui sont au SMIC, c'est massivement rejeté. Les gens, ils veulent pas de chèques, en fait. Ils veulent juste pouvoir vivre dignement de leur travail. Et ça paraît assez logique. Notre invité sur ce débat, en tout cas, c'est Erwan Tison. Il est économiste et directeur des études de l'Institut Sapiens. Bonjour, Erwan Tison. Je ne sais pas si Erwan Tison nous entend.
Il n'est pas là.
Ah, écoutez.
Oui, bonjour.
Erwan Tison est avec nous, donc économiste et directeur des études de l'Institut Sapiens. Bonjour, Erwan. Le SMIC n'est pas un salaire décent. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
D'un point de vue économique, la décence n'existe pas. Il n'y a pas de notion de décence d'un point de vue économique.
Vrai.
Après, la décence, elle va dépendre, on va dire, d'un point de vue plus moral. Si vous habitez à Aubenas en Ardèche, si vous habitez au plein centre de Paris, parce que les prix ne seront pas les mêmes. Donc la question, c'est peut-être aussi la modularité du SMIC et l'uniformité du SMIC qui peut exister dans des environnements où vous avez des fois des rapports de 1 à 2 entre les dépenses de loyer, les dépenses d'alimentation, les dépenses de transport. La question qui est vraiment posée derrière, c'est est-ce que le travail continue à payer à son niveau minimum? La réponse, on le voit dans les comparaisons, on le voit d'un point de vue absolu, elle est non. Les Français, malheureusement, par leur travail, sont en train de s'appauvrir depuis plus de 20 ans. Pourquoi? Parce qu'on a d'une part effectivement des cotisations qui sont de plus en plus importantes, avec des services en face, vos chroniqueurs l'ont rappelé,
qui déclinent peut-être,
mais en tout cas qui sont très présents et qui permettent à beaucoup de personnes d'avoir une forme de redistribution qu'ils n'auraient pas sans ça. Et d'autre part, un sujet qu'on occulte beaucoup, c'est la baisse de la productivité. Le seul vrai moteur des salaires en économie, c'est la productivité. Et quand votre productivité diminue, malheureusement, votre salaire diminue, ou en tout cas progresse beaucoup moins. Et c'est ça qui explique aujourd'hui l'appauvrissement relatif d'une grande partie des salariés français.
Il y a quand même quelque chose, parce que là on parle de la rémunération du travail, mais on est aussi dans un pays qui redistribue le plus de dividendes, donc le capital paye bien, et donc pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas cet argent-là à le mettre sur le salariat?
On pourrait favoriser l'actionnariat salarial.
Vous posez une très bonne question et je vous donne une très bonne solution, faisant en sorte que tous les Français soient actionnaires via par exemple leur cotisation retraite. On pourrait créer des fonds de pension en capitalisation et plutôt que...
Alors ça c'est très risqué, la capitalisation.
Excuse-moi, non, mais Anne-Sophie, je voudrais quand même te dire...
Mais si l'entreprise fait des bénéfices, on peut aussi décider de la reverser sous forme de salaire. Je ne vois pas pourquoi ce serait uniquement sur l'actionnariat.
Non, mais ça s'appelle la prime d'intéressement, la prime de participation.
Que toutes les entreprises ont quasiment.
Pourquoi on ne valorise pas plus le travail? On parle tout le temps de valeur travail et finalement le capital est mieux rémunéré.
C'est le cas. Prime d'intéressement, prime de...
Mais aujourd'hui, on est en train de dire que le travail ne paye pas assez. Ouais. Et en revanche, on n'a pas de difficulté à dire que le capital doit payer, doit être mieux rémunéré.
Ce qui est dit, c'est que bien évidemment, il paye, puisqu'on distribue 52 milliards. Mais à qui il paye?
La prime d'intéressement...
Aux salariés.
Non, aussi. Tous les salariés ne sont pas actionnaires investisseurs.
La prime d'intéressement de participation...
Excusez-moi, c'est un autre débat. Et je voudrais quand même rappeler que, effectivement, si tu parles de dividendes, c'est de l'argent joué entre guillemets, misé en bourse, tout le monde n'est pas gagnant. Donc en fait, tu as aussi quand tu dis, mais c'est très risqué, la bourse, elle est risquée en fait. La bourse, elle est risquée. C'est-à-dire que quand tu investis 100 euros en bourse, t'es pas sûr que le lendemain, t'auras pas 0 euros. Donc, en fait, c'est aussi un risque. Et le risque, ça se paye.
Oui, bien sûr.
Mais
un choix de société. À un moment, on parle tout le temps de valeur travail. Pour moi, rémunérer mieux le travail que la prise de risque du jeu en bourse, c'est aussi un choix de société qui serait intéressant.
C'est de l'investissement et d'investir dans les entreprises aussi. Erwan Tison, est-ce qu'on sait, parce que là, on parle du SMIC, donc qui est, bien sûr, le salaire minimum en France. On rappelait aussi qu'on a plus d'aide, évidemment, quand on gagne le SMIC que quand on gagne 2500 euros par mois. Et est-ce qu'on sait globalement, quelqu'un qui gagne le SMIC, au final, à la fin du mois, il a combien? C'est-à-dire avec toutes les aides qu'il peut y avoir?
Ça dépend énormément de choses. Ça dépend de son quotient familial, ça dépend aussi de sa ville de résidence, des différentes aides qui peuvent être mises en place par les différentes collectivités locales, etc. Par contre, ce qu'on sait, c'est combien ça coûte de ne plus être au SMIC. Des études ont été faites dessus et montrent que si jamais le patron veut augmenter son salarié de 100 euros, c'est-à-dire que le salarié est réellement 100 euros en plus à la fin dans sa poche, il faut que le patron l'augmente de 430 euros pour compenser à la fois les cotisations, mais aussi toutes les aides auxquelles n'aura plus droit le salarié, prime d'activité, prime transport, etc., etc. Donc, au niveau du SMIC, augmenter de 100 euros de pouvoir d'achat en plus, ça coûte 430 euros à son patron.
D'accord. Et donc, en fait, s'il n'y avait pas cette notion de SMIC, il y aurait moins de problèmes pour les patrons pour augmenter.
Alors c'est une question dangereuse, votre standard va exploser.
Oui, bien sûr.
Mais c'est une vraie question. En fait, le problème, c'est qu'en France, le SMIC est le SMIC le plus élevé de toute l'Union européenne, en proportion du salaire médian. La différence aujourd'hui entre le salaire médian, donc le salaire qui coupe 50% de la population en deux, il est de plus de 400 euros. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez 50% de la population qui gagne entre le SMIC et plus que 400 euros. Donc on a en fait un aplatissement total de la distribution des salaires en France, qui illustre la paupérisation dont vous parlez depuis le début. Et c'est ça, à mon avis, sur lequel il faudrait agir. Alors, est-ce que ça passe par une diminution du SMIC? Est-ce que ça passe par un lissage aussi, peut-être, des cotisations sociales? Parce qu'il y a les cotisations au niveau du SMIC, mais il y a aussi le niveau à 160% du SMIC qui a été mis en place par M. François Fillon en 2005, qui est absolument catastrophique, qui là crée un effet de seuil où pour augmenter de 100 euros un salarié environ à 1800 euros, et il faut que le patron lui donne 250-300 euros. Donc, en fait, on a énormément d'effets de seuil qui incitent régulièrement les entreprises, même si elles ne le souhaitent pas, en fait, tout simplement, à paupériser, à maintenir leurs salariés dans un niveau qui est compris entre 1 et 1,6 SMIC.
Bah merci beaucoup, Erwan Tison. C'était extrêmement clair, très rapidement.
Non, libéral ou interventionniste, on est d'accord. Tout le monde est d'accord pour dire que ce lissage et en tout cas cette dégressivité des cotisations salariales.
Il faut arrêter.
Et pourtant, le patron de Michelin montre que c'est possible de mieux payer ses salariés.
Il dit aussi que c'est une catastrophe.
Mais d'autres grands groupes pourraient le faire aussi. Parce que, comme le disait Pierre, il y a des effets de réinvestissement dans l'économie, de relance dans l'économie si on paye mieux les gens. Et donc, les grands groupes devraient être exemplaires. Il y a plein de grands groupes qui payent pas bien.
Anne-Sophie, quand tu es salarié d'un grand groupe, je t'assure.
Alors ça dépend quel type de
salarié. Je ne parle pas sous-traitant, je te dis salarié d'un grand groupe. Il n'y a aucun salarié d'un grand groupe qui se plaint. Les grands groupes, tu as la participation, tu as l'intéressement, tu as des avantages avec les CE. Je te parle de grands groupes. Si tu mets toutes les entreprises du CAC 40, tu ne reçois jamais d'appel de salariés d'entreprises du CAC 40 qui se plaignent parce que tu as énormément d'avantages autour. Ceux qui se plaignent souvent, c'est malheureusement, et c'est la plupart des Français, ceux qui travaillent pour des petites entreprises, des TPE ou des ETI.
Et qui est le premier employeur de France.
Exactement.
Le premier employeur de France, c'est les petites entreprises qui n'ont... Oui. Où il y a souvent des patrons, certains patrons qui ne se rémunèrent pas parce qu'ils ne gagnent pas assez d'argent.
Exactement.
Mais les entreprises qui font beaucoup de bénéfices pourraient avoir un effet d'entraînement.
Mais prendre Stellantis, alors effectivement, Rémi le rappelait, les salariés ont eu 4000 euros de... Je crois plus de 4000 euros de prime d'intéressement. À la fin de l'année. Alors bien sûr, c'est pas les 36 millions de Carlos Tavares, ça je vais pas... Mais 4000 euros, quand tu gagnes un SMIC, ça te fait... c'est quasiment trois fois... c'est trois fois ton SMIC en plus à la fin de l'année. Donc t'es payé non pas sur 12, mais sur 15 mois. Mais dans les grands groupes, les gens sont bien mieux payés que dans les petites entreprises. Toumani est avec nous. Elle appelle de Champigny-sur-Marne en banlieue parisienne. Elle est agent de médiation. Bonjour.
Allô.
Il est agent de médiation, bien sûr.
Il est agent de médiation.
Bonjour Toumani.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes au SMIC ou vous êtes un petit peu au-dessus, Toumani?
Alors moi, de base, en net, je suis au SMIC.
D'accord.
Alors avec les aides, la prime à l'emploi, etc., je frôle légèrement les 1500 euros.
Net par mois?
Net par mois, oui.
D'accord. Donc vos aides, c'est à peu près c'est 100 euros par mois, quoi.
1500.
Ah, 1500 euros. Non, attendez. 1500 euros, c'est avec le SMIC ou avec... Mais c'est tout compris.
Tout compris.
Oui, donc mais comme le SMIC est à 1400 et vous êtes à 1500, ça fait 100 euros par mois d'aide.
C'est ce qu'il disait.
Allô?
Allô, oui, je vous écoute, Toumani.
Oui, je vous ai pas entendu.
Et c'est pas, je disais qu'en fait, voilà, vous aviez à peu près un peu plus de 100 euros d'aide finalement par mois. Et j'imagine qu'effectivement, c'est très dur de s'en sortir avec 1500 euros.
Ah oui, surtout qu'avec un loyer à peu près entre 550 euros et 600 euros.
Ouais.
Plus l'essence qu'il faut mettre pour aller bosser.
Bien sûr.
Donc avec les aides, même le SMIC il suffit pas. Parce qu'en fait, moi je vous ai entendu à partir de ça a coupé à partir du moment où M. Hermel disait que oui, avec le SMIC, avec des aides en France, on peut s'en sortir.
Il parlait d'une famille de. Vous êtes célibataire ou vous êtes marié, vous êtes en couple?
Célibataire.
Voilà. Oui. Mais alors en fait, Fred parlait des familles de quatre. Effectivement, pour les célibataires et Rémi a rectifié après. Pour les célibataires, c'est beaucoup plus dur de s'en sortir parce qu'il y a plein de choses auxquelles vous n'avez pas le droit. Bon, alors, par exemple, la location de rentrée. Il y a évidemment plein de choses. Et vous n'arrivez pas donc à vous en sortir avec 1005 quoi.
Ah, non, j'arrive pas. Et même si voilà. Que j'ai quelques primes ou par-ci par-là, ce qui fait qu'après, à la fin de l'année, les impôts, ils passent. Et puis voilà, à 1 euro près, je suis imposable.
C'est ça. Et là, vous payez des impôts, Toumani?
Ah oui.
Ah, vous payez de l'impôt sur le revenu à 1500 euros?
Eh ouais.
Ah ouais, donc évidemment
célibataire.
Ouais, c'est ça. En fait le problème il est vraiment là, c'est-à-dire que les célibataires, ce que je disais tout à l'heure, les célibataires au SMIC, c'est la double peine.
Comptez pas sur moi, c'est trop tard là.
Oui, Sophie.
Ensuite, les enfants c'est aussi un coût, donc même bien s'il y a des aides pour les familles, je pense que c'est quand même très très compliqué, même pour les familles de deux enfants, parce que les enfants ça coûte de l'argent.
Tu as entièrement raison, mais t'as plus d'aide. Effectivement, c'est ce qu'on disait, t'as la crèche moins chère, t'as beaucoup de choses aussi.
Je rappelle ce que dit l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion, qui parle des Français en général, aide compris. Elle estime que si on veut subvenir à ses besoins essentiels, ce qu'elle considère comme essentiel, on peut le considérer, en tout cas, une manière de vivre d'une manière décente, c'est-à-dire pouvoir se loger, se nourrir, se soigner, aussi payer certains frais pour les enfants, et parfois, parce que ça fait partie de la vie, pouvoir avoir certains loisirs, il manque, en général, aux Français, 300 euros de plus que le SMIC.
Ouais, donc c'est 300 euros par mois, oui, effectivement, ouais. C'est assez énorme. Merci Toumani, en tout cas, d'avoir été avec nous. On va terminer avec le résultat de notre consultation sur Twitter. Le SMIC n'est pas un salaire décent, d'accord, pas d'accord?
Ah bah, c'est massif, encore une fois. C'est d'accord pour 81% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Allez, dans un instant, le zapping, le meilleur d'RMC. On se demandera s'il faut interdire les spectacles avec des animaux. On va parler notamment de ce défilé de chameaux et de dromadaires qui aurait dû avoir lieu à Paris. On va parler de la cheapflation. Vous savez, ces marques qui augmentent leur prix, mais qui baissent la qualité de leurs produits. Est-ce que vous avez le sentiment de vous faire arnaquer? Et puis, est-ce que c'est ringard de porter un pull sur les épaules? C'est la question très sérieuse qu'on se posera à la fin de ce zapping. À tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Il est 13h33, c'est l'heure du zapping, le meilleur d'RMC ces dernières 24 heures. Et on va les commenter, ces extraits du zapping, avec Pierre Rondeau, Rémi Barret, Fred Hermel et Anne-Sophie Saint-Père.
RMC, Estelle Midi,
le zapping RMC.
On va démarrer tout de suite avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Faut-il interdire les spectacles avec des animaux? Ce samedi à Paris devait avoir lieu un grand défilé de chameaux, de dromadaires et de lamas venus de 34 pays différents. Un événement finalement interdit par la préfecture de police. Mais l'idée de l'organisateur Christian Schuttel était de soutenir la cause des camélidés. Ce sont les chameaux et les dromadaires bien sûr. Et il s'en expliquait ce matin dans les GG.
Il y a deux ans, en gros, je crois que c'est il y a deux ans, l'ONU a fixé 2024, année des camélidés, et a demandé à chaque pays d'essayer d'imaginer une manifestation pour célébrer cet animal. Moi, j'invite les gens qui sont attachés aux animaux et qui disent les aimer, d'abord à connaître un peu, et puis de venir comparer l'état de mes dromadaires à ceux qui sont dans le désert, maigres, en train de bosser, et plutôt en train de crever de
peur. Les tiens sont bien traités.
Ben, non, mais
ils sont dans le jardin.
Ils sont dans le jardin. Ils sont gras comme des moines. Ce sont nos animaux. On y tient. C'est pas du bétail. On vit avec.
Est-ce que c'est une bonne chose, Anne-Sophie Saint-Père, d'avoir interdit ce défilé de dromadaires?
Alors moi, c'est vrai que je pense que pour l'animal, c'est un niveau de stress d'être mis comme ça en ville à Paris. Mais oui, c'est pas du tout là qu'ils doivent être.
Il n'y avait pas la circulation. Donc,
on arrête le salon de l'agriculture,
oui.
Là.
Quoi, pardon ?
On arrête le salon de l'agriculture.
C'est vrai que le salon de l'agriculture, c'est pas incroyable.
Laissez-la finir.
Ah ben moi, je suis pas très très pour les animaux domestiques à Paris non plus. Hein. Éventuellement, mais encore les chats, ça tue tellement d'oiseaux, c'est compliqué. Mon appartement, c'est hyper triste. Chat qui voit jamais. Ouais, je suis désolée, mais moi les animaux, je suis vraiment très fan des animaux, mais pour moi, ils doivent vivre dans la nature autant que possible. Et clairement, Paris, c'est pas un lieu qui est naturel pour un dromadaire.
Oui, mais là, ils auraient évidemment arrêté la circulation. Tu penses bien qu'ils allaient pas défiler sur les Champs-Élysées avec des voitures qui slalomaient?
Non, mais le transport, les gens,
les
le
chevaux,
sol.
Alors, dans ce cas-là, mais...
Ouais, mais pense aux petits enfants qui ont jamais vu de dromadaire de leur vie.
Mais on peut les voir de plein d'autres manières. Ah, et c'est beaucoup moins stressant de déplacer l'enfant que le dromadaire qui, avec qui, ça va être plus compliqué d'expliquer. Donc, non, enfin, après, vraiment, moi, je pense que c'est pas très grave d'avoir, enfin, je pense que c'est pas très grave de se passer de ça. Et je pense avant tout aux animaux.
Là bientôt, tu auras l'interdiction des cirques, c'est-à-dire que les petits citadins, s'ils ont pas la chance de pouvoir partir avec leurs parents, aller les placer au zoo, ça coûte une fortune. Mais aller au zoo ou aller, si t'es obligé pour aller voir des lions, d'aller en Tanzanie, payer un safari, autant te dire que plus personne n'ira voir des lions, quoi. Donc en fait, on coupe aussi. Il y a quand même une vraie différence qui est faite, quoi. Tu vois, avec les enfants d'avant qui pouvaient voir toutes sortes d'animaux, etc., à qui on pouvait expliquer plein de choses, et les enfants d'aujourd'hui qui vont les voir uniquement par écran.
Alors après, ça dépend de où on remonte avant. Hein. Les enfants d'avant, il y a quand même une époque où on pouvait vivre sans avoir vu de lion dans sa vie. On voyait les animaux qu'il y avait autour.
On allait au cirque.
Et de la même manière que dans d'autres pays, ils voyaient des lions et pas ceux qu'on a ici. En fait, à un moment, on n'est pas obligé de tout voir pour avoir envie de protéger ou pour apprécier la nature. Et je pense qu'il faut quand même penser à ce qu'on fait subir à ces animaux.
Oui, mais ce sera les petits riches qui pourront voir les animaux sauvage, parce que ça passionne tous les enfants. Je connais pas un enfant qui rêve pas devant un lion ou une panthère. Enfin, je veux dire, c'est la première fois que j'ai vu un lion.
Moi, j'ai jamais vu un lion et je vis très bien.
Comment ça, t'as jamais vu un lion?
Je n'ai jamais vu de lion.
Enfin, vous plaisantez ou quoi? Vous êtes jamais allé au zoo?
J'aime pas tellement les zoos non plus.
Tes parents t'ont jamais amené au zoo?
Alors, j'ai dû y aller quand j'étais petite.
T'as déjà vu un lion?
Je suis pas sûre que c'était des zoos où il y avait des lions, mais j'ai jamais vu de lion.
Moi non plus. Après, Sophie, moi non plus.
Mais
c'est quoi?
J'ai
jamais vu de lion de ma vie.
Et pourtant, je suis hyper. J'avais toutes les cartes de VH. Je suis hyper engagée sur la protection des animaux, mais j'ai pas eu besoin de le voir en vrai.
Excusez-moi, mais attendez, Pierre Rondeau, vos parents ne vous ont jamais amené au cirque?
Non, parce que mes parents sont pas fans de cirque, et moi non plus d'ailleurs.
Et au zoo non plus.
Ah, au zoo,
vous n'avez pas eu d'enfance.
D'enfance, j'ai le souvenir de travailler dans un zoo en région toulousaine, c'était des loups.
Ah oui.
Un zoo spécial pour les loups.
Mais vous êtes jamais allé au zoo de Vincennes?
Non, jamais.
Et à Noël, t'avais une orange, c'est ça?
Une clémentine.
Bon, Fred, vous vous gardez ou pas?
Mais moi, je garde. Bah, franchement, en plus, ce monsieur, je l'ai entendu dans plusieurs médias, il est passionné. C'est quelqu'un qui aime, comme des gens qui élèvent des chiens ou des chèvres. Il élève des dromadaires. Moi, je trouve ça génial.
Plus de place pour les dromadaires.
Bah oui, mais non, mais il a beaucoup de place. Et franchement, ces interdictions au nom d'une idéologie, c'est insupportable.
Bah, là, ce qui est intéressant, c'est que, pour dire la vérité, de très loin, quand j'ai vu l'interdiction, de très très loin, j'ai cru que c'était pour des questions identitaires. J'ai cru que c'était interdiction de chameaux, c'est le bédouin du désert du Sahara. Cru que c'était pour ces raisons-là qu'il y avait une demande d'interdiction. Pas du tout. C'est pour une question de conditions animales. Ça vient d'une association, d'un mouvement écologiste assez extrême qui est pour tout interdire. Ouais, jusqu'à interdire les poissons rouges, par exemple.
Et l'élevage aussi.
Et l'élevage. Ah bah je crois que les poissons rouges, t'as plus le droit à la foire du trône, par exemple, de ressortir avec
des poissons. Non, mais là, ce qu'ils
veulent
interdire,
c'est que
l'association dont on parle, c'est Zoopolis. C'est par étapes, petit à petit, mais au bout du bout de leur idéologie, l'homme, enfin l'animal n'a pas à être un bien, donc c'est l'abolition de l'élevage.
Apolline Matin, ce matin sur RMC, face à la cheapflation, en avez-vous marre de vous faire arnaquer? Une nouvelle fois, l'association Foodwatch accuse des industriels de l'agroalimentaire de dégrader les recettes de leurs produits tout en augmentant leurs prix, une pratique qui ne surprend plus les consommateurs, rencontrée hier par RMC à la sortie d'une supérette parisienne.
C'est triste, mais bon, ça m'étonne pas. Hein.
Ça ou autre chose, au final, on s'y habitue. Par exemple, sur une pause déjeuner, là, comme aujourd'hui, je vais me fier plus au Nutri-Score que passer du temps à regarder de quoi est composé mon plat.
En vrai, je retiens pas si c'était 31% ou 37% et si le prix a changé.
Enfin, c'est légal de faire ça?
Bah, c'est légal, mais enfin, c'est pas très moral, quoi, on va dire. Anne-Sophie Saint-Père, est-ce que vous avez l'impression de vous faire arnaquer au supermarché?
Alors, moi, j'achète assez peu de trucs transformés, donc je pense que c'est une manière de s'en sortir. Oui. Mais je comprends qu'on se sente arnaqué, parce qu'effectivement, déjà, les produits transformés, c'est quand même pas hyper qualitatif. Mais alors, en plus, ils modifient la recette pour mettre beaucoup plus de chapelure et beaucoup moins de produits, au fond, c'est un problème.
Fred Hermel.
Bah, moi, pareil, de moins en moins. Je voyais hier, j'ai acheté des petites galettes bretonnes là, au beurre, etc. Elles sont plus petites qu'avant, quoi.
Bah, t'avais envie de prendre deux fois plus.
Bah oui, mais ouais, bah j'ai pas envie de payer deux fois plus. Donc c'est vrai que
de toute façon, t'es au régime, donc c'est très mauvais.
C'est vrai. Mais je fais de plus en plus attention, ça m'énerve en fait. Donc de plus en plus, je vais chez mon boucher, chez le primeur, parce que là, je sais exactement ce que j'achète.
Chez ton boucher, tu trouves des galettes bretonnes?
Oui.
Très bien.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, plutôt que d'acheter des trucs, j'essaye de. Il y a vraiment que pour les produits. Le supermarché, c'est vraiment quasiment que pour les produits d'hygiène. Et d'ailleurs, là aussi, on se fait avoir. Hein. Dans les produits d'hygiène, il y a moins de. je veux dire, il y a moins de plats, il y a des gros emballages,
tout augmenté,
il y a moins de
trucs, quoi, voilà.
Tout augmenté, etc. Donc, j'essaye de me faire moins avoir. Donc, quand tu fais toi-même les produits transformés, de toute façon, c'est mauvais. Et ben, quand tu vas chez ton petit commerçant, t'achètes 100 grammes de steak haché, bah, t'as 100 grammes de steak haché. Hein, il y a pas de,
tu te fais
pas
avoir. Et en plus, il y a moins d'intermédiaires entre l'agriculteur et l'acheteur. Et ça, c'est hyper bien de mieux rémunérer les agriculteurs.
C'est une question après de temps, c'est une question de connaissance, c'est une question de pratique. C'est, oui, moi, je vous rejoins. Mais maintenant, allez le dire à une famille de 3 ou 4 enfants qui doivent préparer pour une famille, voilà. Des plats, est-ce qu'on a le temps de passer à la cuisine,
prendre des lasagnes surgelées, hop quoi.
Oui, voilà, c'est malheureusement. Et après, le truc, c'est que c'est légal ou pas. Oui, c'est malheureusement légal et une loi peut pas interdire aux producteurs.
Non, mais tu pourrais le signaler en rayon. Avant, je crois que c'est Leclerc ou Carrefour qui avait fait ça sur la shrinkflation. C'était encore autre chose, mais on pourrait, je veux dire, mettre une pastille rouge juste pour alerter le consommateur. Attention, on vous arnaque.
C'est de profiter de la technologie et de la connexion via les smartphones pour créer des applications qui pourraient nous alerter si on scanne le produit pour nous dire tiens la recette a changé.
Bah tu vas sur le site de Foodwatch et t'es alerté. Voilà, voilà.
Donc
t'es alerté sans problème parce qu'ils font un boulot absolument formidable justement là-dessus pour dénoncer toutes les arnaques et voilà, je parlais de shrinkflation. La shrinkflation c'est le fait d'augmenter les prix en mettant moins de produits et la cheapflation c'est d'augmenter les prix en dénigrant le produit.
Une grande enseigne de surgelés très prisée par les Français le pratique abondamment ceci.
Mais il y a beaucoup d'enseignes, de grosses enseignes qui pratiquent malheureusement abondamment ceci. Apolline Matin, ce matin sur RMC, est-il ringard de porter un pull sur ses épaules? Cette pratique, très connotée bon chic, bon genre, pendant les années 80 et 90, a eu de très nombreux adeptes, tels que Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou encore Bernard Tapie. Elle est tombée ensuite en désuétude, mais cette pratique du pull sur les épaules fait son grand retour parmi la génération des 15-25 ans. Les explications complètes avec Sébastien Krebs.
Figurez-vous que c'est même la tendance branchée de ce printemps, le pull sur les épaules noué autour du cou, vous savez, pour la petite balade le soir en vacances. Il suffit de faire une petite recherche sur internet, bien sûr vous en voyez partout, il y en a dans tous les magazines de mode avec des photos, les stars qui ont adopté ce pull noué sur les épaules. Les créateurs en vogue comme Jacques Mu en ont mis plein leur défilé pour la saison printemps-été 2024. Et le monde de la mode a même donné un nom à cette tendance, le old money. Traduisez le look vieux riche, quoi. Et donc ça, le look vieux riche revient, mocassin vernis, et hop, pull sur les épaules, un peu classique avec le petit polo. Donc vous n'aurez plus honte cet été.
Alors, ringard ou pas de porter son pull sur les épaules? Mais ça ne me viendrait même pas à l'esprit. Anne-Sophie Saint-Père.
Ben alors moi non plus, pour moi c'était hyper ringard, mais peut-être que maintenant je suis ringarde et c'est redevenu à la mode, un peu comme les prénoms. Il y avait plein de prénoms qui étaient hyper ringards et qui reviennent à la mode. Peut-être que c'est le cas du...
Ou comme le jean pas de bœuf. Qui revient à la mode grosso
modo. Non, mais arrêtez, ça revient pas à la mode.
Le jean pas de def, mais ça revient à la mode tous les 10 ans. Bah oui,
mais la mode c'est cyclique la mode.
C'est pas parce que c'est à la mode que c'est bien. Hein.
Mais par contre, j'ai pas le souvenir que ça ait jamais été à la mode. Là, ce serait quand même une première l'histoire du pull.
À un moment, tu voyais beaucoup effectivement le RPR, on va dire.
C'est le
la petite chemisette à carreaux et le petit pull sur les épaules. C'était très connoté.
C'est connoté
à droite. Là maintenant, est-ce que c'est une mode de droite ou c'est une mode partout?
Apparemment, c'est une mode de jeunes, je ne comprends pas. Je ne comprends plus les jeunes, je vais pas vous mentir. Je ne comprends pas. Moi, c'est pull sur la taille, pull à la taille, et basta, non, pardon.
Même ça,
non, moi, je ne parle pas avec quelqu'un, je ne l'adresse pas la parole à quelqu'un qui a le pull sur les épaules, quoi.
Carrément.
C'est tellement connoté quand j'étais au lycée, donc
tu vois, c'est de droite.
Fin des années 80, 90.
C'est de droite.
C'est tellement je vote RPR. Par exemple, tu vois, en 85, quand on a fait la manif.
Comme la chemisette à carreaux, d'ailleurs.
Quand on a fait la manif anti-Devaquet, et ben ceux qui faisaient pas la manif, c'était les mecs de droite avec leur petit pull.
Parc à Barbour, ça c'était très important. Leur parc à Huillé-Barbour.
Pour moi, c'est trop connoté centre-ville.
D'où ma réponse, c'est en aucun cas à la mode, c'est en aucun cas retour, c'est juste, c'est ni ringard, c'est juste connoté politiquement. C'est de droite, tout comme il y a un style vestimentaire
particulier.
De gauche et un style vestimentaire de droite, tout comme il y a un style zadiste, un style facho.
Zadiste, déjà,
c'est un angle de style flagrant.
Oui, et puis il y a l'odeur avec.
En tout cas, porter son pull sur les épaules, c'est évidemment de droite. Point final. C'est ni ringard, ni. Enfin, c'est juste un style, mais.
C'est
un
de droite ringarde.
Non, mais non, on peut être de droite.
Mais non, c'est RPR.
Par la mode. Mais ok, on peut porter son pull sur les épaules, mais on affiche politiquement sa couleur.
Je suis d'accord avec toi. Ça a une connotation politique. Mais ça a une connotation politique pour nous qui avons plus de 30 ans. Tu vois. Pour les jeunes de 15 ans, ils ne savent pas.
Les jeunes
de 15 ans, ils ne savent pas qui est Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.
Aujourd'hui, regardez les sondages, les jeunes qui votent, pas tous les jeunes, votent majoritairement Jordan Bardella ou Emmanuel Macron.
Mais est-ce que c'est RN de porter son pull sur l'épaule?
Ah non, pas du tout.
C'est une droite conservatrice.
Nous allons vérifier ça.
Je pensais que les jeunes votaient beaucoup LFI aussi.
Il y en a aussi, mais.
Mais moins, du coup, ça fait moins sur les épaules.
Dans
un instant, RMC s'engage avec vous, avec Amélie Rosy, qu'on va essayer d'aider un auditeur qui regrette très, très, très fort d'avoir acheté une camionnette électrique. Vous allez comprendre pourquoi, tout de suite.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
13h50, vous êtes sur RMC, RMC Story, c'est l'heure à laquelle, vous le savez, on vous aide chaque jour dans l'émission et on vous aide avec Amélie Rosy, qui RMC s'engage avec vous.
Estelle Midi.
RMC s'engage avec vous.
Et Amélie, aujourd'hui, on parle véhicule électrique et subvention écologique. On parle regret aussi.
Ah, on parle gros regret, ouais. Et puis un petit peu de colère avec Harris, 58 ans, patron d'une petite entreprise de traiteurs en région parisienne. Depuis un quart de siècle quand même, il travaille et cuisine seul et sa spécialité, c'est le foie gras. Je vous le dis tout de suite, je n'en ai pas ramené.
Non, oui, parce que je vois bien que
voilà, je n'en ai pas ramené, mais peut-être qu'on la recevra d'ici là, on ne sait pas. Voilà, sa spécialité, c'est le foie gras et son outil indispensable, évidemment, une camionnette frigorifique. Il l'a troquée récemment pour un modèle électrique. C'était il y a 3 ans, une Renault Kangoo en location avec option d'achat, vous savez, en leasing. Et puis à la fin, vous l'achetez. Il a demandé une subvention régionale de 6 000 euros accordée par l'Île-de-France.
Bah, très bien.
Ouais, mais une fois son dossier envoyé à Mobilize, qui est la filiale financière de Renault. D'abord, silence radio pendant quasiment 3 ans quand même.
Ah oui, ouais. C'est un long silence.
Ah ouais, c'est un long silence, ouais. Et puis après beaucoup, beaucoup de relances, il a fini par obtenir cette réponse lunaire.
C'est de toute façon, il a pris la décision de ne pas recevoir et verser ses subventions pour les locations avec option d'achat. Et c'est une information qui ne m'a jamais été mentionnée, écrite nulle part, bien évidemment. C'est une injustice.
Bah oui.
C'est écrit nulle part. Et puis alors, clairement, s'il avait su, vous doutez qu'il n'aurait pas choisi la camionnette électrique qui est plus chère à l'achat.
Évidemment, mais alors, Amélie, comment le fabricant explique cette situation qui est quand même assez incompréhensible?
Alors, donc, c'est Mobilize, anciennement Diac, qui gère les locations avec option d'achat chez Renault. C'est donc eux que nous avons sollicité. Et figurez-vous qu'en fait, les loueurs ne sont pas tenus de participer au dispositif d'aide pour la conversion écologique. C'est dommage, explique la région Île-de-France. Il leur suffirait pourtant de signer le dossier, de recevoir la subvention et de la reverser aux clients. Parce qu'en fait, ça ne leur coûte rien.
Bah enfin,
mis à part la gestion, si vous voulez, peut-être de la rentrée d'argent et de la sortie. Mais en tout cas, ça ne leur coûte pas d'argent. Ça paraît aberrant, mais nous ne pouvons pas les y obliger, précise la région Île-de-France. De son côté, Mobilize se justifie en expliquant qu'il intègre déjà des dispositifs nationaux, mais pas les subventions régionales parce qu'elles sont trop nombreuses, trop changeantes et qu'en gros, ce serait trop compliqué.
Ah oui, ça fait trop de boulot.
Voilà, ça fait un peu trop de taf de gestion. Bon, bref, donc ça se discute un peu, mais ça, c'est leur choix. Nous leur avons quand même gentiment demandé que, à minima, ce serait bien de l'expliquer un peu. Tout petit peu plus clairement au client au moment où il signe son contrat.
Oui, parce qu'en fait, une différence de 6 000 euros sur un véhicule, c'est pas rien, quoi.
Ah, bah, c'est pas rien. Pour lui qui est traiteur, ça représente à peu près une semaine et demie de chiffre d'affaires, quand même.
Oui, donc il aurait pu, s'il avait su, il aurait pris une autre voiture.
Ouais.
Amélie, est-ce que vous avez quand même réussi à obtenir quelque chose pour notre auditeur?
À votre avis, Estelle?
Bah, évidemment que oui.
Mais bien sûr! Grâce notamment à la ténacité de notre reporter excellente Margot Boult, Mobilize d'abord s'excuse pour l'absence de réponse à Harris pendant 3 ans, quand même, je le rappelle. Voilà. Et en compensation, il s'engage à faire un geste commercial. Nous sommes tenus au secret.
C'est nouveau ça.
Donc je ne peux pas vous dire de combien, mais je peux vous dire que Harris est aux anges. Vous en conclurez.
Donc 6 000.
Vous en conclurez ce que vous voudrez. Je ne dirai rien
en fait,
de
ils ont
plus.
Peur ils ont peur qu'RMC s'engage avec vous, les appelle plusieurs fois pour réclamer cette subvention, c'est ça?
Je ne dirai rien, Estelle.
Et vous êtes heureuse ou pas?
Moi, je suis très heureuse pour Harris.
Écoutez, c'est super. On est heureux de l'avoir aidé. Et si vous aussi, vous voulez être aidé par les équipes d'RMC s'engage avec vous, bien sûr, vous n'hésitez pas. Vous nous envoyez un mail à l'adresse RMC avec vous, @rmc.fr. On parle de quoi demain, Amélie?
Alors, un sujet tout autre et beaucoup plus sérieux, j'ai envie de dire. Est-ce que vous vous souvenez des vitraux du père Rib, qui était un pédocriminel. Exactement, où la mairie de Givors refusait de déposer, d'enlever ses vitraux. Eh bien, écoutez, on a eu une information RMC à vous transmettre demain et je vais m'arrêter là. Il faut absolument écouter parce que c'est important.
Très bien.
Et c'est une petite réussite. Petite, mais quand même.
Eh bien, on a du nouveau dans ce dossier. On vous en parlera demain. Et merci de vous être accrochés parce que ça traîne depuis des mois, cette histoire.
Alors, si je dois vous dire, ça fait partie de mes 3 dossiers sur lesquels je ne lâcherai rien, mais alors même jusqu'à jusqu'à la fin de ma vie, tant que ces vitraux, ils ne seront pas sortis de cette église.
Ouais, moi, je n'aimerais pas que vous vous occupiez de moi jusqu'à la fin de ma vie.
C'est très bien.
À mon avis, ils vont plier très très
oui,
vite.
Oui, le maire de Givors, je l'invite à plier. Oui.
Très bien. Nous en parlerons demain. Elle est hyper sérieuse là. Elle fait flipper. Amélie, on va parler tickets restaurants dans un instant. Est-ce que vous les utilisez au supermarché?
Non. Ah j'utilise bon non c'est la carte ticket restaurant ouais, oui la carte ouais. Non et d'ailleurs je vais être hyper honnête, j'ai appris assez récemment quelque chose comme il y a un an et demi que je pouvais payer au supermarché avec.
Tu payes quoi avec?
Bah en fait je m'en sers au resto, enfin vraiment le midi le soir dans les restos qui l'acceptent, et je trouve qu'en tout cas à Paris il y en a pas mal, voire la majorité. Ouais voilà, mais supermarché non, jamais.
En tout cas, la plupart des Français voudraient pouvoir continuer à utiliser leur ticket resto au supermarché, mais a priori, ça va être fini dès le 31 décembre prochain. Est-ce qu'il faut continuer à accepter les tickets resto au supermarché? On en parle dans un instant avec vous au 32-16 et sur l'appli RMC.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.